Histoire de Timeline en partenariat avec le Salon du Livre d'Histoire de Versailles, évidemment. Et j'ai le vrai plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Le Goff pour son livre « Mes années folles ». Ça parle, entre autres, évidemment, de mai 68, révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68. Bonjour Jean-Pierre Le Goff.
Bonjour.
Je suis vraiment ravi. Alors, je ne vais pas passer une journée à vous présenter, à faire tout ce, à dire tout ce que vous faites, sociologue, philosophe, écrivain, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est la suite de la France d'hier ?
Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que ça prend la forme d'un récit.
Mais bien sûr.
Puisque la vie ne s'arrête pas en 68 et ce qui s'est passé après, c'est à la fois un élément de continuité, mais je dirais un mouvement un peu plus radical que par rapport à la... Ça rompt vraiment avec la France des années 50.
Oui, voilà, je suis d'accord.
C'est une rupture, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que... Alors, je vais carrément mettre les pieds dans le plat.
Oui,
allons-y, aujourd'hui, on est entre nous. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que depuis 68, il y a une sorte d'effondrement de toute autorité, j'allais dire... Il n'y a plus les 3P, les fameux 3P dont on parlait avant. Ouais. C'est plus de père, plus de prof, plus de prêtre, plus de surmoi, plus de morale, plus de vertu, plus de valeur. Je ne vais pas trop loin.
Ben, c'est-à-dire, faut faire attention parce que mai 68 n'est pas responsable de tous les maux.
J'ai pas dit que mai 68
était
responsable.
Non, mais alors après, vous avez raison sur ces aspects-là. Je veux dire, 68 n'a pas inventé le problème des banlieues, parce qu'à l'époque, les banlieues, c'était encore des banlieues ouvrières.
Mais c'était pas les
mêmes. Et c'était structuré, lié à un mouvement ouvrier qui n'était pas du tout ce que j'appelle la déglingue actuelle, d'une certaine façon, où c'est beaucoup plus désorganisé. Bon, il y aurait beaucoup de choses, mais par contre, moi, ce que j'appelle la révolution culturelle 68arde, si vous voulez, Edgar Morin, à l'époque, a une formule que je trouve assez juste, en mai 68, un 1789 socio-juvénile.
Ah, pas mal.
Et il dit, en fait, on ne voit pas encore tous les effets de ce 1789 socio-juvénile. Et pour moi, il y a un élément clé de cette révolution culturelle qui prend des effets... On va dire qu'ils ressemblent aux autres qui ont existé dans le passé, mais en réalité, il y a quelque chose de radicalement neuf qui s'appelle un nouvel acteur historique, qui est ce que j'appelle le peuple adolescent, expression que je reprends de mon ami Paul Lyonnais. Et ce peuple adolescent, il se forme un peu avant 68, et c'est simple, non, mais ça veut dire que l'allongement de la durée de scolarité va faire que cette période normalement transitoire d'un parcours de vie va s'allonger. Et cette période est très particulière. C'est-à-dire, c'est une période de révolte, de rupture contre l'autorité. Et bizarrement, la thématique révolutionnaire va rejoindre cette mentalité adolescente. Et quand vous regardez sur une plus longue période, ce qui a été atteint... Alors, ce n'est pas une révolution dans le sens, il y a une prise du pouvoir. Je crois que c'était Mendès qui disait à son neveu qui était 68ard, vous avez perdu politiquement, mais vous avez gagné culturellement. Et je crois que c'est tout à fait ce qui s'est passé avec deux éléments de rupture. L'élément central pour moi, c'est la rupture dans la transmission.
C'était ma question suivante. Ah, bon, super, formidable. Vous avez
dit. Bon. Voilà. Donc, et avec ce que vous dites sur le... Je pense que c'est le tissu, ce que j'appelle le tissu éducatif qui a été bouleversé sur un espace d'environ 30 ans. C'est-à-dire l'école et aussi, n'oublions pas, une institution de vecteur dans la transmission qui s'appelle la famille quand même. Quand vous comparez avant 68 et aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après, vous voyez, il y a quand même un peu dans ce domaine-là un champ de ruines. Et il n'y a pas eu de souci vraiment de reconstruction à partir de ça.
Et on a cru longtemps que... Enfin, on a cru que l'école... allait pouvoir se substituer à la famille, mais ce n'est pas son job.
Oui, l'État, comment vous dire, on a tout mis dans l'école.
Ouais,
c'est-à-dire que problème de l'autorité, c'est aux enseignants de s'en occuper. Il y a le niveau, et en même temps, il y a des tas de luttes, lutte contre l'alcoolisme, lutte contre la drogue, lutte contre maintenant, c'est la question des discriminations.
Genre.
Alors, si vous voulez, l'école, elle a implosé sous les missions qu'on a reportées sur elle, alors que la société avait un tissu qui était passablement dégradé. Et donc, on a redemandé à l'école des missions impossibles, parce que l'instruction, qui était une finalité propre de l'école, ne peut pas se faire si vous surchargez l'école d'autres missions. Et en réalité, les enseignants ont eu affaire à une nouvelle catégorie de jeunes, où antérieurement, la socialisation se faisait par le tissu de la société elle-même, par la famille, alors qu'ils ont vu arriver des jeunes qui n'étaient pas véritablement socialisés. Et donc, ils ont repris en charge une mission qui n'était pas la leur au début. D'où d'ailleurs, pour moi, l'école a implosé sous le poids des missions que s'est donné. Mais il y avait en même temps une critique assez radicale qui a touché les enseignants et, de l'école, école capitaliste, école plus, avec une vision très noire de l'héritage. Et quand vous avez des enseignants qui doutent eux-mêmes de ce qu'ils doivent transmettre, ce qui a été le cas dans les années 70-80 et plus tard, il y a un problème par rapport aux jeunes, puisque vous devez leur transmettre un héritage, mais en même temps vous critiquez et vous êtes en rupture totale avec cet héritage. D'où la transmission est quand même rendue très délicate. Et le problème central, c'est cette rupture dans la transmission avec les deux vecteurs qui étaient les vecteurs de cette transmission, qui sont la famille et l'école.
Du coup, 68, c'est quoi ? C'est une crise de civilisation, oui, qui aurait réussi finalement ou qui aurait raté ?
Eh bien, écoutez, je pense que quand vous regardez du côté, de l'autre côté de la barricade, parce que j'ai relu quand même tous les auteurs, les bons auteurs, De Gaulle, Pompidou, etc., il y a une conscience que c'est une crise de civilisation. Mais on ne sait pas sur quoi ça va déboucher sur le moment. Et moi, je pense qu'il y a le moment 68. Le moment 68 doit être compris par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la rapidité de la modernisation du pays. On n'imagine pas, entre les années 50 et 68, le pays a été totalement transformé du point de vue des classes sociales. L'hédonisme ne date pas de 68. La civilisation de consommation et de loisirs ne date pas de 68. Simplement, quand vous êtes dans un bouleversement extrêmement rapide, mai-juin 68, c'est un moment de pause cathartique où ça part dans tous les sens. Ouais, il y a du nihilisme dedans, mais il n'y a pas que du nihilisme. Vous avez aussi la deuxième gauche. Vous avez aussi, n'oubliez pas, ce qu'on va appeler les cathos de gauche, qui ont joué un rôle très important en 68. Donc tout ça est mélangé, et après 68, vous voyez monter l'extrême gauche, et ce que j'appelle le gauchisme culturel, qui va véritablement amener, je pense, une révolution du culturel sur une période de temps, avec un élément que je trouve très important qui va démultiplier l'impact de cette révolution, qui est les années 80. C'est-à-dire à un moment où la gauche arrive au pouvoir, sa doctrine est déjà passablement en morceaux par rapport à celle qui vient du 19e siècle, et ce que j'appelle le gauchisme culturel va lui servir de substitut. Et du même coup, si vous voulez, ce qui était une contre-culture existante de façon autonome dans la société. Qu'on soit d'accord ou pas, il y avait du nihilisme dans cette contre. Mais ce n'était pas du gauchisme institutionnalisé, étatisé d'une certaine façon. Là où ça va véritablement, il va y avoir une démultiplication du gauchisme culturel par son institutionnalisation par la gauche. C'est le moment de SOS Racisme, si vous voulez. Et là, on passe... Alors là, c'est... Et l'école, et là, on part vers, j'allais dire, un conformisme de l'anticonformisme.
Et c'est ce qu'on lit, d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué en vous lisant. On est, donc, à part, enfin, 68, on va dire, c'est vraiment l'époque de la transgression. C'est le moment où on doit transgresser les règles. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la transgression, en vous lisant, et puis on le constate tous les jours, c'est la norme.
Oui, absolument. C'est l'antinorme, c'est un truc fou, si vous voulez, paradoxal. L'antinorme serait devenue la norme. C'est ça. Alors qu'elle était antinorme, critique et autonome du point de vue de la société. C'était minoritaire et ça s'assumait comme tel. Le rapport à l'État n'était pas du tout... c'était pas les victimes ayant des droits demandant à l'État, dans une demande indéfinie, de nouveaux droits. C'était pas ça. C'était « ne me libère pas, je m'en charge oui, ». Avec un côté, d'ailleurs, gauchiste et nihiliste. Oui. Mais ce nihilisme, c'est ça qui est très compliqué à comprendre aujourd'hui, avait une dimension active. Pourquoi ? Parce qu'en face, vous aviez des pouvoirs qui tenaient encore la route. Vous aviez des tabous et des interdits. Donc la notion de transgression avait un sens. Qu'est-ce que ça veut dire transgresser dans une société devenue permissive où l'antinorme est devenue la norme ? C'est une moi j'appelle ça, il y a un nihilisme actif, je ne vais pas reprendre Nietzsche, mais et il y a un nihilisme d'affaissement. Et je pense qu'on est dans cette situation avec ce nihilisme institutionnalisé qui devient banal d'une certaine façon. La transgression devient banale. D'ailleurs, il n'y a même pas conscience de transgresser. Oui, parce que la transgression suppose l'interdit. Elle suppose même une certaine angoisse dans l'ancien monde quand vous transgressez parce que vous avez quand même mauvaise conscience. Ça reste là, vous le faites... vous êtes à la fois, bon, ça c'est, je raconte ça dans mon livre, c'est très, on disait à l'époque, jouissif, c'est formidable, on transgresse, etc. Mais il y a un moment, si vous voulez, à force de transgresser, il reste quoi ? Et je prends souvent l'image des jeunes qui, à un moment donné, vont errer dans un champ de ruines. La transmission est rompue. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, vous savez, c'est comme des pierres d'un monument. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, si j'ose dire.
Oui.
Eh bien, on ramasse une pierre, on en met une autre là, et on fait une colonne vertébrale qui est patchwork, qui n'est pas une colonne vertébrale. Oui. C'est-à-dire, là, il y a un nouveau fossé des générations. Moi, parce que nous, c'était pas ça. C'était vraiment carré, avec des idéologies folles. Mais vous pouviez vous affronter, on ne boxait pas contre des édredons, si ça, vous voulez. Vous voyez, maintenant, vous auriez l'impression de boxer contre des édredons en même temps, on ne sait jamais où on est, etc. Une espèce de grande mélasse, vous voyez.
En même temps, vous avez raison, c'est le grand terme de l'époque, c'est en même temps. En même temps, il y a un culte. Ça fait beaucoup quand même pour une seule génération. On a de la chance. On a l'impression de transgresser aujourd'hui quand on a des idées un peu réac, en fait.
Oui, alors maintenant, il y a quand même un renversement. Mais alors, je vais vous dire, franchement, concernant les réacs, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Le problème, De Gaulle avait vu une chose en disant il y a peut-être une crise de civilisation qu'il appelait la civilisation mécanique, avec les normes, la bureaucratie, etc. Et il cherchait... Un des grands problèmes du siècle, disait-il, c'était l'équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 68, c'est le moment du grand déballage, et très vite, ça s'emballe.
Oui, c'est ça, ouais.
Ça s'emballe, et l'équilibre, personne ne l'a trouvé, si vous voulez. Mais je ne voudrais pas faire des analogies, mais Vatican II, oui. Qui a eu lieu avant, qui était quand même qu'anticipé déjà un certain nombre de choses, je dirais que vous avez un peu le même problème. C'est-à-dire, ça s'est emballé vers quelque chose qui n'a pas du tout... Et personne ne l'a maîtrisé, d'une certaine façon.
Celui-là, encore moins... actuellement. En 72, il y a le film L'aventure, c'est l'aventure, de Lelouch, et il fait dire à Lino Ventura, le capital, c'est foutu, la société de consommation, c'est foutu, les bagnoles, c'est foutu, la cinquième, c'est foutu, finalement,
tout est foutu,
mais finalement, ils avaient tout faux, puisque finalement, tout est encore là, et même, ça n'a jamais été pire.
Ben, je pense que ça n'a jamais été pire, mais l'hypothèse que je fais, c'est qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle historique quand même.
Ouais.
Alors, il faut faire attention parce que ça n'en finit jamais de finir. Enfin, vous dites, ça y est, on peut s'enfoncer un peu plus et à chaque fois, il y a quelque chose qui revient derrière. Donc, c'est un peu désespérant. Mais je pense que quand même, comment on peut aller plus loin maintenant? En plus, il y a une réaction par rapport à ça. Quand vous prenez les années Mitterrand et SOS Racisme, l'hégémonie du gauchisme culturel était quand même beaucoup moins entamée qu'il ne l'est maintenant. Je ne vais pas être... Bon, alors le problème qui est très délicat, bon, je pense notamment aux lois dites sociétales, c'est que pour moi, le gauchisme est intégré à l'État. C'est-à-dire que, sans aucune conscience de ça, il a intégré des thèmes du gauchisme culturel. Alors, comment résumer ce gauchisme culturel? C'est pas la révolution de l'extrême-gauche, c'est pas les idéologies maoïstes, etc. C'est une révolution à l'intérieur des sociétés démocratiques, par la pression de l'opinion et par le changement d'éducation lié aux enfants. Bon, je vais pas vous ressortir des textes du gauchisme culturel, mais c'est dit explicitement dans les années 70. Et c'est ce gauchisme-là qui a triomphé. Et non seulement il a triomphé, mais une partie de ses thèmes est intégrée désormais à l'État, sous la forme de loi. C'est ça le paradoxe.
Oui, c'est ça. Mais alors on va où, alors?
Alors là,
non, mais vous êtes content d'être venu, vous allez voir.
Je ne sais pas où on va, mais je dirais qu'on y va.
On y va droit dans le mur. On y va en tout cas très très rapidement.
Non, mais je pense qu'il y a toujours des réserves. Là, quand même, il y a un effet déformant qui est lié aux grands médias. C'est-à-dire la réalité de ce gauchisme culturel dans l'ensemble de la société. Si vous prenez le problème des woke, par exemple. Ouais. Il y a un effet tambour des grands médias, si vous voulez. Parce que moi, on n'est pas les États-Unis. Je ne connais pas beaucoup de statues en France qui ont été déboulonnées. Par contre, il y a une espèce de bocal qui s'appelle l'université, notamment les facs de lettres, dans lequel on se débat, etc. Et vous avez l'impression, j'avais un ami étranger qui écoutait un certain nombre de radios, il dit, mais quand vous écoutez la radio, vous avez l'impression que la France entière est sous l'hégémonie de l'extrême-gauche. Mais on n'arrête pas de parler d'eux. Il y a un écart entre, si vous voulez, la représentation réelle à l'intérieur de la société et cette bulle. Il faut faire attention à une chose, à mon avis. C'est-à-dire qu'on peut les prendre, Dieu sait si je les critique, mais vous pouvez vous enfermer dans une polémique stérile où vous vivez de ce que vous dénoncez.
Oui.
Or, le problème, la France a affaire à d'autres problèmes qui sont quand même énormes, notamment géopolitiques, le retour de la guerre, le climat, etc. Or, c'est un piège, ils sont au centre de l'espace public, c'est ça. Et ils tiennent encore un certain nombre de bastilles à l'intérieur de grands médias. Mais quand vous regardez la société entière, ils sont loin de ça. Et donc, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les combattre, bien évidemment, mais pour moi, c'est, j'allais dire, une queue de comète, si vous voulez. Mais par contre, ce qui est très difficile à déraciner, c'est une mentalité qui s'est transmise de génération en génération. En deux mots, je peux la résumer, si vous voulez. C'est d'une part, il y a une vision du pouvoir, de l'institution, de l'autorité, c'est de la domination. Alors là, bon, il y a les dominants, les dominés, ça c'est un schéma de base. Les dominés peuvent même faire beaucoup de barbarie, mais, et là on le voit à propos du... Pour moi c'est la question du Hamas, hein, parce que c'est ce schéma-là. Si vous êtes dominé, même si vous pouvez faire des trucs les plus terribles, vous êtes en situation de dominé. Par contre, le dominant ou le plus fort a nécessairement... C'est un criminel, si vous voulez, voyez. Et ce schéma dominant-dominé a été transmis. Et puis, il y a une volonté d'autonomie comme un absolu, c'est-à-dire l'individu. Il y a une dimension d'individualisme démocratique, mais là aussi, on a franchi les seuils. Et la revendication, notamment des enfants qui doivent être autonomes dès qu'ils sont petits, quoi. Et à qui on passe le micro sans arrêt, comme si c'était des citoyens adultes. Bon, alors ils répètent ce qu'ils entendent, parce que c'est normal, un enfant, c'est pas autonome. Et vous avez un brouillage général de la, des âges de la vie, entre le jeune, etc., qui s'est vraiment développé aujourd'hui. Et puis, il y a autre chose dans cette vision du pouvoir, c'est la notion de fascisme. Alors là, à l'époque... Le fasciste n'en finit pas d'arriver, si vous voulez. Alors, attendez, il arrive. Ça, vous l'avez en 68-70. Et vous avez le même schéma. Et puis, je rajouterai un troisième élément, ce que j'appelle l'histoire pénitentielle. C'est-à-dire, dans cette vision des dominants et des dominés, eh bien, vous avez une vision de l'histoire où l'Occident, la France, sont nécessairement coupables. Tout est noir, si vous voulez. C'est un schéma très binaire, en noir et blanc, si vous voulez. Il n'y a pas de nuance.
C'est le cas de le dire.
Voilà. Et donc, ça a été transmis. Oui, ça a été transmis comme des espèces de schémas pour aborder la réalité. Vous voyez, même s'il n'y a plus Mao, il n'y a plus Guevara, mais enfin, il y en a encore. Voilà, Guevara, quand vous regardez, moi j'ai étudié les textes, c'est quand même un criminel. Enfin, oui, absolument. Eh bien, vous avez des gens qui sont sur le t-shirt.
Oui, c'est ça.
Et vous dites, mais ils n'ont jamais retravaillé le sujet. Quoi.
Pourquoi voulez-vous?
Oui, d'accord. Mais donc, voilà, donc au-delà même de. De ça, je pense que c'est des structures qui ont été transmises, si vous voulez. Vous voyez, des façons d'aborder le monde qui sont problématiques. Plus que... Alors, il y a des idéologies, etc. Et puis, dernier point, je pense que quand j'ai écrit sur cette période, je n'ai pas voulu faire simplement une histoire des idées.
Non.
Parce que ces idéologies et ces idées, il y en a beaucoup. Il y a le surréalisme, il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que le marxisme-léninisme, etc. Il y a aussi des courants subversifs, artistiques. Tout se mélange. C'est ce que j'ai appelé un bouillon de culture. Oui. Mais ce bouillon de culture, il faut bien voir que ce n'est pas simplement un rapport intellectualiste. Quand vous avez 20 ans... et que vous êtes contestataire, ce n'est pas simplement un rapport intellectualiste aux idées. Il y a des passions, il y a des affects adolescents. Et c'est l'articulation entre ces idées folles et l'anthropologie adolescente. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut... Et ça, pour rendre compte, il faut rendre compte d'un climat. Vous pouvez le rendre compte que par un récit, y compris en décrivant des situations, tout en menant une critique sans concession sur les idées, les idéologies et les idées folles.
Demain, on va accueillir Bruno Dumézil sur les royaumes visigoths et puis les Francs, etc. Donc la fin de l'Empire romain. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces périodes-là et parfois, j'ai l'impression de retrouver ce que j'ai lu sur la fin de l'Empire romain sans faire de... je ne parle pas des invasions. Enfin, voilà, hein. Allez, mettons les pieds dans le plat. On est à Versailles, on fait ce qu'on veut. Oui. Est-ce que, globalement, vous parliez de fin d'une civilisation là? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut se passer la même chose et on va vers un nouveau Moyen-Âge ?
J'en sais strictement rien. Enfin, je veux dire, l'histoire est ouverte sur des possibles, mais il y a toujours des événements qui nous surprennent, si vous voulez. L'histoire n'est jamais déterminée sur une pente. Par exemple, je parle de réserves d'humanité qui existent au sein de la société, mais ce n'est pas évidemment forcément ceux qu'on voit dans les grands médias. Mais quand vous avez un événement grave, je pense le Covid, il y a eu deux aspects du Covid. Il y a eu quand même un enfermement qui n'était pas triste, un attaque des libertés, etc. Ouais. Mais en même temps, vous voyez que dans la société, vous avez des gens auxquels vous attendez pas, qui font preuve de solidarité. Donc, si vous voulez, tout n'est... C'est ça, l'histoire, c'est comme ça. Oui, oui. Je n'ai pas parlé sans d'autres grands événements. Tout d'un coup, peut ressurgir des choses auxquelles on ne pensait pas. Votre voisin à qui vous ne parliez pas, vous ne voyez pas ce qu'il... Vous pensez qu'il... Alors là, celui-là. Et puis tout d'un coup, il va sauver quelqu'un, etc. Donc, il y a quand même une forme de réserve d'humanité qui existe. Le problème, c'est que ce n'est pas celle-là qu'on entend, si vous voulez. C'est ça, le problème. Il y a un décalage entre la société elle-même, avec ce qu'elle comporte de réserve d'humanité, et la représentation médiatique qui est donnée à travers un certain nombre de restes d'extrême-gauche ou de gauchistes culturels, et ce décalage est très grand. Mais il ne faut pas se laisser, à mon avis, prendre au piège de la représentation médiatique. Parce que c'est complètement déprimant. Et la critique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre simplement de ce que vous dénoncez. Et le politiquement correct, il faut le critiquer, mais en même temps... Il y a un moment, mais qu'est-ce qu'on propose, comment on passe à autre chose et comment le centre de vos intérêts n'est pas polarisé par ceux qui sont quand même, qui cassent les pieds. Mais c'est ça la grande difficulté, s'extraire de ça. Pas simplement, c'est pour ça que la polémique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Une fois que vous avez dit non et en réaction à tout ça, vous êtes confronté à un problème, mais en positif, vous pensez quoi ? C'est-à-dire, vous êtes obligé de vous déterminer. Le non ne suffit pas. Il y a un moment où il vous faut dire un oui à quelque chose. Sinon, c'est de la réactivité un peu qui tourne en rond. Voyez.
Je suis d'accord. Je posais cette question-là parce que dans les années 68, l'avenir était... en tout cas, il travaillait pour un avenir qui était plutôt rose. Dans les années 80, on était au no-futur. Là, le futur n'est quand même pas exceptionnel. C'est pour ça que je posais cette question. On va vers quoi ?
On va vers quoi ? C'est-à-dire, quand vous regardez le contraste, il est frappant. C'est-à-dire, on était dans la dynamique des Trente Glorieuses avec encore l'idée à l'époque des lendemains qui chantent, si j'ose dire. Ouais. Quand vous regardez la situation des jeunes aujourd'hui, c'est plutôt sombre et noir. Et il y avait une forme d'insouciance. Les jeunes sont, moi je discute beaucoup avec eux, sont terriblement sérieux. Il y a un côté très sombre, y compris de la révolte des nouveaux adolescents. Parce que l'avenir, c'est la catastrophe. Alors évidemment, c'est le climat, et c'est très noir. Et ça manque terriblement d'humour, entre parenthèses. Alors... Parce que là, ils rigolent pas beaucoup. Hein.
Oui, mais ils pourraient plus, ce serait interdit. On va passer aux questions du public. Je pense qu'il y a certainement plein de questions. N'hésitez pas. Allez, osez.
Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce moment quand même fâcheux dans l'histoire de France, mais on parle de mai 68 en raisonnant toujours au niveau de la France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre mouvement, certainement différent en Grande-Bretagne ou en Allemagne ou dans les pays voisins, ou venus aussi d'outre-Atlantique ? Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas eu des influences, nous sommes à la fin de la guerre froide, pas tout à fait encore, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des influences venues du bloc soviétique auprès de personnes influentes en France qui ont poussé vers ce mouvement ?
Oui, alors sur la première question, c'est un moment historique, 60, les années 60, vous apercevez qu'il y a une révolte. Les étudiants, ça commence à Berkeley, si vous voulez. Mais ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle ça va se propager. Et chaque pays, selon son histoire propre, va faire une révolution particulière. Nous, il se trouve qu'on va ressortir les barricades de 48. Enfin, en 68, des barricades. Il y a une espèce de, je n'allais pas dire de jeu de rôle, vous voyez. Il y a une mise en scène, une remise en scène en 68 en France, de toute l'histoire de France, au moment où on quitte une période historique. Alors, il y aura des manifestations, mais ça ne sera pas les massacres. C'est ce que disait le préfet Grimaud, le rituel des affrontements de rue. Je ne manie pas le paradoxe, mais c'est ce qui nous empêche, d'un côté comme de l'autre, de tuer. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus violent. On sortait d'une période, n'oubliez pas que la France sort de la guerre d'Algérie en 68. Alors, chaque pays a mené une révolution dans une période de temps, les démocraties. C'est pour ça que je pense que c'est pour moi... ces révolutions de la seconde moitié du XXe siècle, qui ne sont pas des révolutions qui ressemblent aux autres dans la prise de pouvoir politique, mais qui sont véritablement des révolutions culturelles à l'intérieur même des démocraties, se jouent dans l'ensemble des pays. Nous, on a fait les barricades. Vous prenez l'Angleterre, c'est une révolution culturelle par rapport à l'époque victorienne, avec le rock, mais surtout la pop anglaise. Et là, vous avez ce même peuple adolescent va le jouer différemment. En Allemagne, ça va tomber dans le terrorisme comme en Italie. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le fascisme, et les parents étaient nazis. Nous, on a quelque chose en France qui s'appelle le général de Gaulle, qui est un truc très particulier, qui a vaincu l'OAS, on ne peut pas le dire de l'extrême droite. Et donc, en plus, il y a un parti communiste qui combat ouvertement les gauchistes, qui dit « nous, on n'en veut pas », etc. Donc, chaque pays a une histoire propre, mais sur un fond commun de cette révolution. Et cette révolution, c'est des effets de déstructuration du tissu éducatif et, j'allais dire, sociétal. Alors, la deuxième question sur les agents rouges, oui, il y a dû sûrement y en avoir. De même, à l'époque, on parlait surtout des agents cubains. Raymond Marcellin, il y avait Cuba, il y avait Mao. Mais sûrement. Mais le problème n'était pas là, si vous voulez. Le problème, c'est que dans tous les cas, ça partait qu'il y ait... C'est pas eux qui ont créé l'événement, voyez. Sûrement, il y a toujours des moyens de profiter. Mais les Russes, par exemple, je pense à Massu discutant quand De Gaulle est arrivé à Baden-Baden. Il avait discuté avant, ils avaient fait une soirée avec les Russes avant. Et alors, parce qu'à l'époque, ils rencontraient les généraux et les Russes disaient « Mais nous, on ne s'embête pas comme ça. Vous êtes avec vos étudiants, nous, c'est liquidé en deux jours. Hein. » Je veux dire, bon, effectivement.
C'était le bon temps, quand même.
Voilà. Donc, voilà.
Bon, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que 1968 et les dernières années, c'est le climax du Parti communiste, le moment culminant et après...
C'était un tout petit peu plus long, parce qu'après, il y a la chute du mur de Berlin, mais ça commence là. Et ça commence là parce que, si vous voulez, chaque parti politique, de gauche notamment, va projeter sur cette révolution ses propres schémas. Et on redonnait une nouvelle jeunesse à des adultes je pense à Sartre et d'eux, qui avaient quand même, il avait quand même 63 ans en 68, il parlait de révolutionnaires de 10 ans. Il y a eu une démagogie jeune absolument invraisemblable. Mais ils n'ont pas vu, et il y a beaucoup de gens à gauche, y compris, je dirais, ça c'est un autre sujet, mais les catholiques de gauche ont joué un rôle très important, chacun projeté sur l'événement. Ce qu'ils n'ont pas vu, à mon sens, c'est qu'il y avait un acteur nouveau qui mettait en question tous ces schémas. Et cet acteur nouveau, c'était le peuple adolescent, avec sa mentalité propre, si vous voulez. Et ça, on n'avait jamais vu avant. Et là, maintenant, le peuple adolescent, il est installé. Vous ouvrez la télé, vous avez le jeune représentant du syndicat lycéen devant des poubelles et qui vous explique la grève générale. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Là, à l'époque, ça commençait là, ouais, si vous voulez.
Voilà. Effectivement, tout est à retrouver dans Mes années folles, révolte et nihilisme du peuple adolescent après 68, chez Robert Laffont. Jean-Pierre Le Goff, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Achetez-le.